Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Comme d'habitude, lorsque nous méditons un passage battu et rebattu de l'Évangile, j'en ai vu quelques-uns qui, pendant la lecture de l'Évangile, clignaient des yeux sous la pesanteur des paupières. Et oui, nous avons l'habitude toujours d'entendre « qui mange ma chair et boit mon sang », c'est bien ce qu'il veut nous dire. Mais, comme d'habitude, pour pouvoir recevoir dans toute sa fraîcheur et avec tout son poids les passages de l'Évangile aussi capitaux que celui d'aujourd'hui, eh bien, il faut nous projeter 2000 ans plus tôt. Et il faut se mettre dans la peau des auditeurs du Seigneur. Eux ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Nous, nous savons bien ce qu'il advint plus tard, puisque nous jouissons aujourd'hui de l'Eucharistie. Mais à l'époque, c'était la première annonce que le Seigneur leur faisait. Et devant cette première annonce, ils n'avaient d'autre choix que de s'abandonner dans une totale confiance. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer et si ça allait vraiment être conforme à ce que Jésus leur disait. Quant au passage de l'Évangile d'aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Eh bien, Jésus vient de multiplier les pains, souvenez-vous, pour une foule innombrable, et voilà qu'il se livre à un curieux discours, qu'on appelle le discours du pain de vie. Et dans ce discours du pain de vie, il dit qu'il faut consommer sa chair, il faut consommer son sang à lui, Jésus, pour être sauvé. Imaginez les contemporains du Christ, ils sont médusés. Que Jésus multiplie les pains, si bon lui chante, après tout, pourquoi pas? J'allais dire, ça ne mange pas de pain. Les prophètes l'ont fait dans l'Ancien Testament, c'était monnaie courante. On a des miracles similaires. Souvenez-vous de cette veuve que un prophète, je ne me souviens jamais si c'est Élie ou si c'est un autre prophète, pour lequel il a multiplié de l'huile de façon qu'elle puisse faire du pain avec son fils et ne pas mourir. Mais je ne cite qu'un exemple parmi d'autres, des multiplications de nourriture, il y en a eu pléthore dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas trop ce qui pose problème aux Juifs. Et puis, soyons honnêtes, ça leur profite, alors qu'ils ne disent rien. Qu'il annonce ensuite qu'il est le pain de vie descendu du ciel, c'est-à-dire d'auprès de son Père, voilà qui est nettement plus gênant. Et les Juifs ne s'y trompent pas, ils perçoivent là une revendication, non pas tant de la divinité de Jésus, il ne faut pas aller trop vite en besogne. L'heure n'est pas encore venue pour Jésus de révéler pleinement sa divinité. Mais il leur explique d'abord qu'il vient du ciel. Et eux se disent, bah, nous on le connaît bien, ce rabbi Jésus, c'est le fils de Joseph, charpentier de Nazareth. Alors quand il nous dit qu'il vient du ciel, voilà, il y a un petit problème. Vous voyez que annoncer qu'il vient du ciel pose problème. Mais alors, quand Jésus commence à prétendre qu'en mangeant de son corps et en buvant de son sang, on a la vie, et que celui qui refuserait de faire cet acte n'a pas la vie éternelle et ne l'aura jamais, alors là, c'est la panique chez les Juifs. Mais on les comprend. Qui, d'entre nous, à la place de ces Juifs, n'aurait pas été totalement bouleversé? Les Juifs, nous dit saint Jean, discutaient fort entre eux. Quand Jésus leur dit qu'il vient du ciel, ils se contentent de murmurer. Mais quand il leur dit qu'il faut manger son corps et son sang, alors là, ils discutent fort entre eux. Ça commence à chauffer, et jusqu'aux disciples sont ébranlés. Parce qu'on nous dit qu'après ce discours, eh bien, bon nombre des disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Vous voyez que ce discours de pain de vie, si on veut bien se remettre dans la peau des contemporains, est tout à fait à rebrousse-poil, est tout à fait révoltant. Comme toujours, devant ce mystère, il y a la murmuration. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus trop quand, dans une homélie, cette murmuration qui détruit tout, les communautés, qui détruit la parole du Seigneur. Cette murmuration, depuis la nuit des temps, on la trouve. Les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, Caïn est jaloux de son frère Abel. Il murmure contre Dieu. Pourquoi donc Dieu a-t-il agréé l'espèce de petit sacrifice de mon freluquet de frère, alors que moi, au moins, je lui offrais quelque chose? Sarah, la femme d'Abraham, murmure. Vous savez comment s'appelle son fils, Isaac? Vous savez ce que veut dire Isaac? Elle a ri, si je me souviens bien. Tu as ri ou elle a ri? Parce qu'elle s'est moquée du Seigneur, elle s'est mise tout simplement à pouffer de rire quand Dieu lui a révélé que Abraham aurait un fils d'elle, elle qui était inféconde depuis toujours et qui l'est a fortiori puisqu'elle est vieille. Le Seigneur le lui annonce, elle murmure. Sa manière à elle de murmurer, c'est de pouffer de rire. Et Pierre qui murmure lorsque Jésus lui annonce que le Fils de l'homme doit être livré. J'ai oublié bien sûr les Hébreux au désert qui murmurent contre Dieu parce qu'ils ne comprennent pas où Dieu veut en venir. 40 ans au désert. Judas murmure quand une pécheresse vient moindre les pieds de Jésus avec du parfum de grand prix. On aurait pu, avec cet argent, nourrir des pauvres, bien sûr. Murmure, murmure, murmure. Il n'y a que murmure dans l'Écriture de la part des hommes. Et la murmuration, elle procède toujours d'un phénomène particulier. qu'est-ce que c'est ? C'est ce refus de considérer les choses dans la lumière de Dieu. Avec notre petite intelligence, nous restons prisonniers d'un horizon précisément horizontal. Nous sommes trop bas de terre et nous nous disons, normalement, en toute justice, Dieu n'aurait pas dû faire ça. Ou Dieu ne devrait pas faire ça. Vous voyez, celui qui murmure, souvent c'est un justicier. Il a au moins ça de bon qu'il est justicier. Le problème, c'est qu'il est complètement empêtré dans cette vision des choses ric-rac, terre à terre, justicière et raisonnable de façon froide. C'est quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'amour. Et quel est le grand murmurateur par excellence ? Nous savons bien, c'est Satan. Satan, quel a été son problème ? Pourquoi s'est-il rebiffé contre Dieu ? Mais parce qu'il a considéré que la prédilection divine pour les petits êtres que nous étions, faits d'esprit et de corps, était scandaleuse. Mais bien sûr, en toute justice, Dieu aurait dû préférer Satan. Satan avait bien vu là-dessus. Effectivement, en justice, Dieu aurait dû le préférer. Donc Dieu, là-dessus, n'a pas respecté absolument une justice stricte et froide. Satan s'est rebellé aussi parce qu'il a vu, que, ou il a deviné, ou on lui a dit, je ne sais, parce que ce n'est pas écrit dans l'Écriture, que le Fils de Dieu lui-même allait s'incarner dans une de ces misérables créatures. Et servir un Dieu comme ça, non. Servir le Dieu des armées, oui. Servir le Dieu qui s'incarne, non. Voilà donc notre Satan qui, depuis lors, ne cesse de murmurer parce qu'il est prisonnier d'une conception froide et rationaliste de la réalité. Lui qui n'est qu'intelligence n'a pas voulu ouvrir son cœur. Et définitivement, son cœur est clos. Et c'est dommage, parce que pour comprendre un mystère de Dieu, il faut avoir le cœur ouvert. Et pas seulement l'intelligence froide qui résonne. Pourquoi les Juifs et les disciples murmurent devant le discours du pain de vie ? Mais parce que leur intelligence ne parvient pas à percer le mystère. Je veux. Le mystère d'un Dieu qui s'incarne, c'est déjà grand. Le mystère d'un Dieu qui propose son corps et son sang en nourriture, je comprends bien que l'intelligence patine. Voyez ? Que Jésus revendique tout cela, non, l'intelligence ne comprend pas. Il refuse, sous l'influence du diable bien sûr, de considérer avec bienveillance les propos de Jésus. Et d'entrer, je vous le dis pour la troisième fois, dans une démarche d'amour. Voilà le problème de ces Juifs. Pourquoi la réforme luthérienne, calviniste, a-t-elle murmuré devant le sacrement de l'Eucharistie ? Mais parce qu'humainement, avec l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre le mystère de l'Eucharistie. Chez nos frères réformés, je les appelle nos frères parce qu'ils croient quand même en la Trinité, parce que nous avons quand même beaucoup de choses en commun, heureusement, grâce à Dieu, mais nos pauvres frères réformés, je suis navré de remarquer qu'ils manquent d'amour dans leur regard sur ce que Dieu leur propose. Ils manquent d'amour quant au sacrement de l'Eucharistie. Ils ont laissé leur intelligence et leur intelligence seulement devant ce mystère, refusant d'y plier leur cœur. Le mystère de l'Eucharistie, quand nous y réfléchissons bien, c'est la preuve de l'amour par excellence. Parce que dans l'Eucharistie, voyez-vous, Jésus est vulnérable comme jamais il ne l'a été auparavant. Quand Jésus s'incarne, qu'il devient un petit bébé, il est vulnérable. Lorsque Jésus grandit et qu'il refuse de revendiquer un messianisme temporel, il est vulnérable. On le voit sur la croix, il est vulnérable. Mais il l'est encore plus dans l'Eucharistie. Parce qu'enfin, c'est à la parole du prêtre, quand l'envie chante au prêtre, pourrais-je dire, que Jésus descend dans l'Eucharistie. Parce qu'ensuite, il est à la merci des fidèles. On n'est jamais sûr que les fidèles feront un bon usage du sacrement de l'Eucharistie, les prêtres non plus d'ailleurs. Il est dans une petite hostie, il est enfermé, on le mange, qu'advient-il de lui ? Est-ce qu'il est reçu vraiment avec toute la déférence ? Est-ce qu'il est reçu avec toute la foi qui convienne ? Jésus, dans l'hostie, est plus que jamais vulnérable. Et la vulnérabilité que Jésus a concédée dans l'Eucharistie est le gage de son amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est totalement vulnérable, on est à la merci de cette personne. Parce que quand on n'a pas encore déclaré sa flamme à une femme ou à un homme qu'on aime éperdument, on est toujours vulnérable de la réponse qu'il va nous donner ou ne pas nous donner. Va-t-il ou ne va-t-il pas accepter ? Je suis dans une fébrilité totalement vulnérable. Lorsque j'ai un ami, je suis vulnérable parce que j'accepte de me plier à ses défauts. J'accepte de me plier à ses humeurs. Eh oui, j'accepte même de l'accompagner quand il est totalement paraplégique. Ça, c'est la vulnérabilité de l'amour. Et c'est cette vulnérabilité qu'on voit dans l'Eucharistie. Et c'est ce qui pose problème à nos pauvres réformés comme aux pauvres contemporains du Seigneur, et c'est parfois, reconnaissons-le, ce qui nous pose problème à nous aussi. On n'est plus du tout, donc, avec l'Eucharistie dans le domaine de la justice, on est totalement dans le domaine de l'amour. Et les conséquences, voilà, je me perdais, mais je me retrouve, les conséquences de cette murmuration sont désastreuses. La murmuration des juifs, des réformés, de nous-mêmes parfois, ou des rationalistes devant l'Eucharistie sont désastreuses. Qu'advient-il ? Ben, il y a deux paraboles du Nouveau Testament qui nous permettent de saisir les conséquences abominables d'un refus de se plier devant le mystère de l'Eucharistie, de regarder dans l'amour le mystère de l'Eucharistie. Il y a d'abord la parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce que c'est que cette parabole ? Eh bien, on a un maître de la vigne, vous savez, qui voudrait faire justice parce que ses ouvriers ne veulent pas travailler. Alors, il envoie ses serviteurs, on tue ses serviteurs. Et il se dit, j'envoie mon fils, eux, ils le respectent, au moins lui, ils le respecteront. Il envoie donc son fils, qui enjoint les ouvriers d'aller à la vigne, et on tue son fils. Eh bien, avec une analyse théologique, avec les commentaires qu'en font les pères, on peut reconnaître dans cette vigne le sacrement de l'Eucharistie. Souvent, on y voit le champ apostolique. Il faut aller au champ apostolique, il faut aller dans la mission, et lorsqu'on refuse, le Père envoie son Fils, on tue le Fils, etc. Mais on y voit aussi l'Eucharistie. Jésus, le Fils unique, le Fils du chef de la vigne, est envoyé pour nous enjoindre de venir à la vigne, de venir communier au précieux sang. Et nous refusons à cela. Alors nous tuons Jésus. Refuser de venir communier, lorsqu'on est baptisé, c'est d'une certaine manière tuer Jésus. Ça va très loin lorsqu'on interprète cette parabole. Il ne suffit pas de vénérer le Saint-Sacrement. Il faut encore en faire usage. Le Saint-Sacrement a été fait pour cela, et si nous refusons de communier au précieux sang, dans l'hostie, vous savez qu'il y a les deux, le précieux sang et le corps du Christ dans l'hostie, eh bien, d'une certaine manière, nous tuons Jésus. Parce que nous refusons ce cadeau. Et le cadeau d'un ami, nous ne le refusons pas. Parce qu'on blesse l'ami lorsqu'on refuse un tel cadeau. Et quand ce cadeau a été acquis au prix de son sang, vous pensez bien que le Seigneur Jésus est blessé. Voilà donc la conséquence de notre refus, non pas du dogme de la présence réelle, ça nous y adhérons, mais de notre communion concrète. Deuxième parabole qui nous apprend autre chose, c'est la parabole des invités aux noces. Le maître de la noce invite les personnes refusent de venir parce qu'elles ont mieux à faire. Parce qu'il vient d'acquérir un champ, qu'il veut une paire de bœufs, qu'il veut que ses bœufs travaillent, l'autre qui vient de se marier, bref, j'ai autre chose à faire que de venir au banquet céleste. Et oui, mais que fait à ce moment-là le maître du banquet ? Il invite d'autres personnes. Et il renie ses premiers amis qui ont été invités. Ils ne sont pas dignes, bien qu'ils ne viennent pas. Voilà ce qu'il advint lorsque nous refusons le sacrement de l'Eucharistie ou lorsque nous refusons trop longtemps de venir au banquet céleste. Vous voyez, c'est très concret pour notre vie chrétienne. Nous ne pouvons nous tenir éloignés pendant des mois du Saint-Sacrement. Je sais bien que l'Église permet que nous accédions au sacrement de l'Eucharistie qu'une fois par an, que ça suffit pour remplir les devoirs. Mais là, c'est dans le cadre de relations de justice avec Dieu. C'est le strict minimum en justice. Je viens de vous dire que nous devions être dans une relation d'amour au Seigneur. Alors, le plus tôt et le plus souvent nous irons communier, le mieux ce sera vis-à-vis du Seigneur, et le plus respectueux ce sera vis-à-vis de lui. Vous aurez compris donc que j'insiste ici sur la nécessité de communier. Je voudrais juste, pour conclure, parce que c'est un peu long, et je me perds dans les méandres, je voudrais conclure sur les implications de la communion eucharistique. La communion eucharistique est très paradoxale. À la fois, il y a quelque chose de très personnel, de très individuel là-dedans. Vous voyez, lorsqu'on mange un morceau de pain, ce morceau de pain, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre ensuite. Il est consommé, digéré, point. Il ne sert qu'une fois. C'est un aliment à usage unique, le pain. Et si le Seigneur a choisi de venir dans un morceau de pain, c'est précisément parce qu'il y a cette dimension dans le pain. Pour nous faire comprendre que nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Que Dieu veut se donner à nous, à vous, à vous, à vous, personnellement. Nous avons du prix aux yeux de Dieu en tant que personne. Et Dieu veut s'offrir à nous individuellement. Parce qu'il nous aime et que l'amitié est toujours entre deux êtres, pas entre trois, entre deux êtres. Et en même temps, et paradoxalement, l'Eucharistie ne saurait se cantonner dans cette dimension strictement personnelle. Il y a une dimension éminemment communautaire dans le sacrement de l'Eucharistie. Et si nous frustrons l'Eucharistie de cette dimension communautaire, nous ne lui permettons pas de donner tout son fruit. C'est-à-dire que l'Eucharistie fait l'Église, selon la vieille formule des Pères, reprise par Jean-Paul Dieu il y a encore peu de temps. L'Eucharistie fait l'Église. Nous mangeons le même corps, le même pain, et nous formons le même corps. C'est ce que dit saint Paul. Alors, si nous refusons, si nous gardons notre petit Jésus pour nous tout seuls, si nous refusons de faire corps, c'est pas très beau, mais enfin, c'est quand même très parlant, avec le reste de cette chapelle, ne serait-ce que cette chapelle, eh bien, nous frustrons l'Eucharistie de ses effets. Ce n'est pas le tout d'aller communier et ensuite de repartir froidement dans son coin. Le Seigneur entend que l'Eucharistie est une dimension communautaire. Nous sommes les membres du même corps. C'est-à-dire que, au-delà des connivences ou des réticences que nous avons les uns envers les autres, le Seigneur nous unit dans son sacrement d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Il nous unit, c'est quand même incroyable, il nous unit plus étroitement ici, dans cette chapelle, entre nous qui a priori, n'avons rien à voir les uns avec les autres, il nous unit plus étroitement qu'avec les membres de notre famille qui ne communieraient pas. Voyez-vous un peu l'intensité de ces liens. Ce n'est pas seulement une manière de parler, c'est très profond. Nous sommes une même famille. Nous ne nous sommes pas choisis, mais le Seigneur, lui, nous a choisis. Ça, c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut bien garder présent devant les yeux. La communion n'est pas seulement un petit acte de dévotion privée, c'est un acte éminemment communautaire. Vous voyez où je veux en venir, et le repas dans 15 jours permettra de manifester cela de manière très concrète, je l'espère. Nous devons, mes frères, vraiment, je vous en supplie, avoir plus d'égards les uns envers les autres. C'est une chapelle dans laquelle existent des liens, et c'est déjà très beau, des amitiés, et c'est déjà très beau. Mais je sens, je sais que des personnes restent à l'écart. Je sais que certains ne se parlent jamais, ne connaissent pas le nom des autres. Enfin, combien sommes-nous ? Imaginez dans une église de 3000 fidèles comme à Saint-Nicolas, ou dans une église comme Notre-Dame de Paris, où ils sont je ne sais combien. Je comprendrais là. Mais ici, où nous sommes si peu, mes frères, il faut vraiment faire un petit effort. Moi-même qui ne vous ai pas choisi, je suis absolument ravi, je vous l'assure, d'être ici et de pouvoir être le berger de cette petite communauté. Vraiment, j'en suis ravi. Le Seigneur a donné, a priori, je n'aurais pas fait le même choix, sans doute, mais le signe dès demain, c'est parfait. Eh bien, essayons les uns envers les autres d'avoir un petit peu cette même démarche. Si nous mangeons du même corps du Christ, nous formons le même corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.